Alors évidemment, dans ce genre de réunion, il est toujours tentant de commencer par une plaisanterie. Et celle qui vient à l'esprit aujourd'hui, c'est la vieille boutade qu'on attribue aux Britanniques. Oh, la France serait un pays merveilleux si seulement elle n'était pas peuplée par les Français. Alors, je n'attribuerai pas cette boutade à Churchill, qui peut-être a dû le penser justement à plusieurs reprises, comme je vais l'expliquer, ou j'espère pouvoir l'expliquer. Alors, son amour de la France, on en a déjà parlé tout à l'heure, et David Reynolds a parlé du fait qu'il passait plus de temps pratiquement en France qu'aux États-Unis, non pas son pays natal, mais le pays de sa mère. Et il passait son temps donc dans des châteaux, où, alors j'ai oublié de dire que ma traduction du titre que vous avez sous les yeux, moi maintenant, c'est Churchill et sa vision de la France et des Français à la veille de la guerre. Donc, son amour pour la France est absolument indéniable. Pour ses châteaux, là, c'est un château dont on reparlera plus tard, pour les villas sur la Côte d'Azur, tout ça, ça n'a jamais diminué dans l'entre-deux-guerres. Mais dans l'entre-deux-guerres, les Français lui ont causé beaucoup de tracas et une certaine inquiétude, malgré sa confiance qu'on pourrait dire indéfectible dans ce qu'il attendait d'eux, au cas où la France éternelle, et je crois qu'il aurait repris sans problème l'expression gaullienne, au cas où la France éternelle serait une fois de plus menacée par l'Allemagne. En préparant tout ça, il y a une expression également qui m'est venue à l'esprit. Il est bien connu qu'on attribue à Churchill une consigne qu'il aurait donnée à ses successeurs quand il est parti en 1955. « Ne vous séparez jamais des Américains ». On pourrait dire, à mon avis, que toute son attitude avant la guerre, puisque je me limite avant la guerre, toute son attitude avant la guerre est dictée par ce précepte « Ne vous séparez jamais des Français ». D'où son attitude de patience, on pourrait même dire d'extrême patience, vis-à-vis de toutes les difficultés qu'il a pu avoir. Alors, ça commence avec Poincaré. Alors, il y a un problème, c'est que sur l'écran, là, les gens ont la largeur normale, mais là, vous allez voir un Churchill qui sera maigre. Donc, vous voyez Poincaré qui est maigre, mais bon, c'est poetic license. Hein, bon. Et donc, Poincaré, qui lui a donné beaucoup de mal lorsque Churchill était chancelier de l'échiquier dans la deuxième décennie des années 20. Mais Churchill a toujours fait de très, très gros efforts pour ne pas rompre avec ces Français qui lui posaient tant de difficultés. Clémenceau et Foch, les deux personnes qu'il admirait le plus chez les Français à partir de la Première Guerre, sont tous deux morts en 1920. Mais Churchill n'a jamais cessé de répéter, alors je vous donne ma traduction, « Grâce à l'union de ces deux hommes, Clémenceau et Foch, au cours de la dernière année de la guerre, le peuple français eut à son service toutes les gloires et tous les élans vitaux hérités de la Gaule. D'où son fameux cri du cœur, le 23 mars 1933, à la Chambre des communes, c'est-à-dire pas même deux mois après l'arrivée d'Hitler à la chancellerie, « Grâce à Dieu, il y a l'armée française ». Et dans ses mémoires, il nous dit que cela lui valut la peine et l'aversion de ses collègues à la Chambre. En fait, depuis la fin de la Grande Guerre, Churchill n'avait jamais perdu le contact avec les hauts dirigeants français, quels qu'ils soient. Le président Doumergue le reçoit longuement en 1925. Il rencontre également Édouard Herriot, qu'on verra en pantoufles. Apparemment, Herriot avait des problèmes de gouttes. Ça semble bizarre que Herriot reçoive en pantoufles, mais bon, à cette occasion, en 1925. Peut-être est-ce que quelqu'un a l'explication. Je ne l'ai pas trouvé. Ma femme m'a dit probablement c'est parce qu'il avait de la goutte. Et à l'époque, tous les hommes avaient de la goutte, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, en 1927, il écrit à sa femme depuis Paris qu'il a été invité à déjeuner par son ancien homologue Loucheur avec Aristide Briand, donc personnalité très importante de l'époque, avec ensuite un autre déjeuner avec Vincent Auriol, qui deviendra président de la République, et, dit-il, une quinzaine de députés de premier plan de tous les partis. Churchill continue d'avoir des relations extrêmement suivies avec Flandin. C'est bizarre, ça. Flandin qu'il voit en revenant C'est pour ça que Churchill mélange toujours l'utile et l'agréable. Churchill est allé faire de la peinture chez ses amis près de Dreux, ce château qu'il a peint un peu plus tard. Et donc, quand il va à Paris, quand il va à Dreux, pardon, il ne manque jamais de s'arrêter à Paris chez Flandin. Et de même, quand il va sur la Côte d'Azur, il s'arrête également chez Flandin, qui est député de Lyon. Et donc, jusqu'en 1936, Flandin lui fournit tous les renseignements que Churchill lui demande sur l'évolution des forces aériennes françaises. Et c'est à l'occasion de l'évolution des relations de Churchill avec Flandin que l'on peut le mieux mesurer les inquiétudes qui saisissent Churchill à mesure que la politique d'apaisement opère ses ravages en France dans la bonne entente franco-britannique. En janvier 1938, donc il déjeune une fois de plus avec Flandin, qu'il trouve transformé, et il en conclut dans une lettre à sa femme. Tout se passe comme si ces hommes politiques français de droite jugeaient que l'Allemagne allait devenir le maître incontesté de l'Europe dans un avenir proche. Et dans une autre lettre qu'il écrit début mars, il écrit « Flandin se comporte très mal et il fait beaucoup de dégâts. Se comporte très mal, c'est-à-dire, en fait, se rapproche des Allemands. » Alors, quelques jours plus tard, je reviens à 1937, quelques jours plus tard, donc toujours en 1938, pardon, l'ambassadeur de Grande-Bretagne en France depuis 1937, donc Sir Eric Phipps, qu'on voit ici avec Hitler, Sir Eric Phipps ayant servi à Berlin jusqu'en 1937 avant de venir à Paris. Donc, en 1938, Sir Eric Phipps le convie à déjeuner, confie Churchill à déjeuner avec Flandin, ici même, à l'ambassade, et cela se passe très mal. La rupture définitive, ça se passe très mal, non pas entre l'ambassadeur et Churchill, mais entre Churchill et Flandin. Et la rupture définitive entre Churchill et Flandin, rappelez-vous que c'était de très bons amis, interviendra au moment de Munich, parce que Flandin est devenu l'un des principaux munichois côté français. Et d'ailleurs, Flandin enverra un télégramme de félicitations à Hitler. Donc, rétrospectivement, dans ses mémoires, et là, je repense à ce qu'a dit David Reynolds, bien sûr, c'est souvent overcolored, ses mémoires, mais donc, dans ses mémoires, Churchill fera partiellement peser la responsabilité de cette conversion de Flandin et d'autres hommes de droite français sur Baldwin, qui avait découragé Flandin de prendre toute initiative qui pourrait irriter Hitler. Au moment de la crise de Rennes. Donc, selon Churchill, l'idée, c'est que Flandin aurait conclu de ses entretiens avec Baldwin qu'il n'y avait rien à attendre de la Grande-Bretagne et qu'il était donc prudent pour la France de se rapprocher de l'Allemagne. Mais Churchill ajoute, et là, on retrouve bien Churchill, Clémenceau ou Poincaré n'auraient pas laissé le choix à M. Baldwin, c'est-à-dire eux auraient dit non, M. le Premier ministre, nous n'acceptons pas votre politique. Donc, le paradoxe, c'est que, parallèlement, le conservateur qui est Churchill trouve ses « bons Français », entre guillemets, à gauche, en même temps que Churchill conserve sa foi dans les forces armées françaises. Donc, dans les années 1936 à 1939, où il effectue de nombreux séjours en France, comme on l'a dit tout à l'heure, où il mêle l'utile à l'agréable, sans qu'il soit d'ailleurs toujours aisé de distinguer les deux. Souvent, il s'arrête à Paris pour quelques heures ou quelques jours sur son trajet vers la Côte d'Azur ou vers les châteaux de ses richissimes amis américaines, ici Maxine Elliott, qui possède le château qu'on a vu là, en numéro 2, la villa qu'elle a baptisée Château de l'Horizon. Donc en août 1936, pardon, il voit Georges Mandel à Paris, ainsi que son vieil ami, le général Georges. Georges, qui l'invite à assister aux manœuvres de septembre 1936, près d'Aix-en-Provence. Donc c'est commode. En général, les manœuvres françaises se déroulent plutôt sur la frontière allemande. Là, Aix-en-Provence, magnifique. Churchill, évidemment, est toujours partant pour aller dans le Midi. Et à ces manœuvres d'Aix-en-Provence, Churchill est l'hôte du général Gamelin, le généralissime déjà désigné en cas de guerre, avec qui il déjeune au mois d'août. À la suite de ça, Churchill écrit à Léon Blum, qui est alors président du Conseil, donc Premier ministre, comme on dirait aujourd'hui, Il écrit à Léon Blum qu'il a été ravi de ce qu'il a vu. On pourrait croire évidemment à de la politesse convenue, mais il écrit dans le même sens à sa femme, « Pour quiconque a des connaissances en matière militaire, c'était très instructif. Les officiers de l'armée française sont impressionnants de gravité et de compétence. On sent bien que la force de la nation réside dans son armée. » Donc, ce mois de septembre 1936 est un mois véritablement français pour Churchill. Comme disait David, il passe plus de temps au mois de septembre 1936 en France qu'en Grande-Bretagne ou partout ailleurs. Parce qu'ensuite, le 15 septembre, il se rend sur la ligne Maginot avec l'attaché militaire britannique et il repart à Londres, mais pour revenir à Paris le 24 avec sa femme, où il déjeune avec Herriot, déjà rencontré, Flandin, déjà rencontré, et Paul Reynaud. Paul Reynaud, qui est alors simple député de Paris. Et le soir, il prononce un grand discours au Théâtre des Ambassadeurs, à Paris, sur le thème de l'importance de la coopération franco-britannique pour défendre la démocratie parlementaire et la civilisation occidentale. Rien de moins. On reverra Churchill, bien sûr, en 1937. Ses multiples voyages sont toujours suivis par la presse britannique. Là, on le voit revenir. Mais je voudrais m'arrêter maintenant sur un autre important séjour en France qui aura lieu en mars 1938, c'est-à-dire au moment de l'Anschluss. Churchill, à ce moment-là, en mars 1938, réside ici, à l'ambassade, avec théoriquement, vous comprendrez pourquoi je dis théoriquement, avec théoriquement la bénédiction du gouvernement britannique. En réalité, l'ambassadeur, Sir Eric Phipps, fait tout, c'est lui qui l'écrit lui-même à Lord Halifax, pour rappeler aux Français qu'il convie à l'ambassade, parce qu'il ne peut pas faire autrement, quand Churchill vient, on convie des Français à l'ambassade, donc il rappelle à ces Français qu'il convie à l'ambassade que Churchill ne parle qu'en son nom propre, et surtout pas au nom du gouvernement britannique, ni des conservateurs, ni même de la majorité de la population britannique. Donc, ce que Sir Eric Phipps décrivit dans ses papers à Lord Halifax comme « this hectic and electric weekend », intraduisible en français, on n'a pas « hectic »,« this hectic and electric weekend », qui se déroula, là, ça pourrait se traduire en français, mais c'est mieux en anglais, « in an increasingly kaleidoscopic manner », montre l'ampleur des contacts de Churchill avec tous les gens qui le voient en si peu de temps. Donc, vendredi 25, je donne les jours parce que c'est vraiment kaleidoscopic. Vendredi 25, donc mars 1938, le matin, entrevue avec Alexis Léger, alias Saint-Jean-Perse au Quai d'Orsay. Le midi, déjeuner avec Paul Reynaud. Le soir, dîner avec Herriot, alors président de la Chambre des députés. Le lendemain, samedi 26, dîner avec Léon Blum et Joseph-Paul Boncour, ici à l'ambassade. Dimanche 27, déjeuner de nouveau ici à l'ambassade, c'est ce fameux déjeuner avec Flandin qui ne s'est pas bien passé. Et le soir, toujours à l'ambassade, dîner avec Daladier. En outre, Sir Eric Phipps, qui est bien sûr présent à tous ces repas officiels à l'ambassade, rapporte à Lord Halifax que Churchill a rencontré, alors je donne la liste, c'est très impressionnant, André Chaumex du Journal des débats, Vladimir d'Ormesson du Figaro, Louis Marin, le général Gamelin, Mandel, Chautan, Chastenay du Journal Le Temps, Sorven du Paris Soir et d'autres encore. Et Sir Eric Phipps ajoute savoureusement, il voulait rencontrer un communiste. Je le lui ai fortement déconseillé et il s'en est dispensé. Bon, il est évident qu'au cours de ce séjour éclair, Churchill a rencontré tous les hommes qui devaient avoir tant d'importance lors de l'heure tragique. L'heure tragique, comme vous le savez, est la traduction adoptée en français de ses mémoires pour la période qui couvre mai-juin 1940. Tous les hommes, à l'exception de Laval, Pétain et Végan. Intéressant. Justement, ceux qui vont trahir, entre guillemets. Qu'est-ce que Churchill a dit à tous ces hommes lors de cette visite éclair? Nous le savons grâce aux archives de Sir Eric Phipps. La participation de Churchill aux conversations était principalement consacrée à l'urgence de former un bloc franco-britannique contre l'Allemagne avec des rencontres d'état-major approfondies et immédiates. Dans ses mémoires, Churchill fait état de l'ambiance amicale qui régnait avec Léon Blum et Paul Reynaud. Là, on le voit avec Léon Blum, plus tard, en 1939. Et il confirme également ses difficultés avec Flandin. Nous nous sommes disputés pendant 2 heures, ici, à l'ambassade. C'est le fameux repas. Churchill suggère par ailleurs que les premières fissures dans sa confiance absolue vis-à-vis de l'armée française commencent à apparaître, en entendant Gamelin, à l'inverse de ce qui s'était passé après les grandes manœuvres à Aix-en-Provence en septembre 1936. Donc Gamelin, qui lui aussi me rendit visite, avait à juste titre confiance dans la force de l'armée française à ce moment précis, mais il fut très mal à l'aise devant mes questions sur l'artillerie, dont il connaissait parfaitement les faiblesses. Donc ces fissures de mars 1938 étaient nouvelles, car jusque-là, Churchill n'avait réellement entretenu de doute que sur l'aviation française, par opposition à l'armée de terre. De plus, Churchill quittait Paris, inquiet de la chute imminente du gouvernement Blum, comme il l'écrit. Et des soubresauts de politique intérieure, alors on en a parlé ce matin, plutôt pour l'après-guerre, mais évidemment, il y avait de gros soubresauts de politique intérieure qui détournaient l'attention des Français des périls extérieurs. Donc on peut donc avancer qu'à partir du printemps 1938, derrière sa façade d'absolue confiance dans l'invincibilité des Français en cas d'attaque, et bien sûr, il n'était pas question pour les Français d'attaquer, mais pour les Français de se défendre, on peut dire que sa foi en la volonté de se battre et la capacité des Français à réitérer l'union sacrée de la Grande Guerre n'était vraisemblablement plus inébranlable. Après mars 1938. Ils reviennent à Paris, Churchill et Clémentine, en juillet 1938, invités officiels lors de la visite des souverains britanniques, qui a laissé un grand impact ici en France. Et bien sûr, Churchill continuait à suivre l'évolution de la situation politique en France de très près, en entretenant une correspondance avec Blum et avec son successeur Daladier, donc président du Conseil, ainsi qu'avec Paul Reynaud, qu'on a déjà rencontré. Le 10 octobre, après les accords de Munich, il écrit à Daladier. « Je ne vois pas quelle politique étrangère il reste à la République française. Vous avez été infecté par notre faiblesse sans être rassuré par notre force. Les hommes politiques ont cassé le ressort des deux pays, l'un après l'autre. Jamais depuis la perte des colonies américaines, l'Angleterre n'a subi une blessure aussi profonde. » La France en est revenue au lendemain de 1870. Que faire ? À quoi Paul Reynaud répond le 20, la France est hélas dans une situation pire qu'en 1871. Churchill, bien sûr, on l'a dit, passe son temps en France. Il revient sur la Côte d'Azur en janvier 1939, s'arrête comme toujours à Paris, déjeune au Trianon avec Paul Reynaud, avant de se rendre à l'ambassade, d'abord avec un tour d'horizon ici, seul avec l'ambassadeur, et ensuite on fait entrer Léon Blum. Qui, Léon Blum, qui écrira Churchill dans une longue lettre à sa femme, marquée « secret », fut de tous celui qui lui donna le plus de renseignements. Donc on voit bien l'étroitesse des liens entre Churchill et Blum à l'époque. Les conversations portaient notamment sur la mésentente franco-britannique lors de la crise tchèque, que tous ses interlocuteurs français déploraient. Et comme Churchill le déclara aux communes en avril 1939, tout ça avait affecté les relations franco-britanniques. Mais, comme il le dit également, il fallait que cela ne vienne en rien enfoncer un coin entre nous et la France. Donc Churchill est de nouveau invité d'honneur de la France dans la tribune officielle pour le défilé du 14 juillet en 1939, où il apprécie tout particulièrement les unités blindées. Le général Gamelin le convie à venir de nouveau inspecter la ligne Maginot. Churchill lui écrit le 21, donc juillet 39, pour régler les détails. Il termine sur une note flatteuse, à la fois pour l'armée française et pour son généralissime. Ce fut pour moi un grand plaisir d'assister à ce magnifique défilé de l'armée de la France et de l'Empire français le 14 juillet et, permettez-moi de le dire, de sentir la fermeté de votre main sur l'ensemble, tandis qu'approche de toute évidence des événements décisifs. Alors, la dernière visite de Churchill en France, c'est vraiment in extremis, avant le déclenchement des hostilités, puisque c'est en août 1939. En août 1939, et cette visite est importante pour notre discussion d'aujourd'hui, parce qu'elle nous renseigne grandement sur son état d'esprit final, où il veut oublier ses doutes. Sa grande tournée de la ligne Maginot, du 14 au 17 août 1939, sous la conduite des généraux Gamelin et Georges, le remplit d'aise, à tel point qu'il écrivit au secrétaire d'État à la guerre britannique, « Il est impossible de prendre le front français par surprise. Il ne peut nulle part être rompu, si ce n'est par un effort qui serait extrêmement coûteux en vies humaines et qui prendrait si longtemps que toute la situation en serait bouleversée le temps de son déroulement. » Le général Spears, qui accompagnait Churchill, parce que c'était un vieil ami du général George, et il voulait revoir le général George, note que l'aspect des troupes fit plaisir à Winston Churchill. Et de retour de Belfort et de la ligne Maginot, Churchill, bien sûr, joint toujours l'utile à l'agréable, il retourne donc faire un peu de peinture au château de Consuelo Vanderbilt à Dreux. Consuelo Vanderbilt, qui connaît depuis longtemps, puisque c'est son ancienne belle-sœur. Et dans ce château, Clémentine et leur fille Mary les rejoignent. Il y a également, ça c'est Consuelo et son deuxième mari, Jacques Balsan. Et au château, il y a également le peintre Paul Maas, qui est un grand ami de Churchill, et je dirais presque son mentor en peinture. Et Maas écrit ensuite, nous parlâmes de sa visite à la ligne Maginot avec George, très impressionné par ce qu'il a vu. Churchill, très impressionné par ce qu'il a vu. Bien sûr, nous sommes ici fin août, les journaux ne parlent que d'une chose, les négociations, qui ne sont plus secrètes, entre les Allemands et les Russes, en vue de ce qui deviendra le pacte germano-soviétique. Donc Churchill décide d'abréger les vacances familiales, il repart à Londres, il s'arrête à Paris au passage, le 23, pour y déjeuner, comme toujours, alors cette fois-ci avec le général George, et Churchill écrira dans ses mémoires, il m'exposa tous les chiffres sur les armées françaises et allemandes, en classant les divisions par qualité, le résultat m'impressionna. Tellement que pour la première fois je lui dis, mais vous êtes les maîtres. Donc ce regain de confiance envers les armées françaises est confirmé par le général Ironside, qui a écrit le 27 août dans son journal, après avoir déjeuné avec Churchill à Chartwell, « Winston ne cessait de vanter George, qu'il venait de rencontrer en France. Je me dis qu'il était devenu très français dans sa façon de voir, et qu'il avait une très haute opinion de ce qu'il avait pu constater. » Ce sont les derniers paragraphes. Donc ce qui est important pour nous ici, c'est le début de ma conclusion, « The beginning of the end », ce qui est très important pour nous ici, c'est qu'en août 1939, donc Churchill ne déclarait pas seulement qu'il était impressionné par l'état de préparation de l'armée française dans des discours publics, ce qui était normal, il ne pouvait pas dire autre chose dans des discours publics, mais que également à des gens très proches, comme Paul Maas ou le général Ironside, il n'avait aucune raison de leur raconter des mensonges, et à eux, il leur disait « oui, oui, j'ai tout à fait confiance ». Alors ça ne veut pas dire que Churchill était naïf, bien sûr, mais... Mon hypothèse, c'est que « ne vous séparez jamais des Français » semblait rester le mot d'ordre adressé à ses compatriotes, même si ça impliquait des efforts sans cesse renouvelés, en particulier à cause de l'instabilité des dirigeants civils, instabilité qui était née, bien sûr, des profondes divisions politiques des Français que Churchill connaissait parfaitement. Un avant-dernier mot, le dernier mot frac trois lignes, un avant-dernier mot pour parler de son choix des interlocuteurs français. Pour parler familièrement, avant la guerre, Churchill a toujours su parier sur le bon cheval à long terme. Il a su concentrer ses consultations sur les dirigeants français qui sont sortis intacts, sauf Flandin. Les dirigeants français qui sont sortis intacts des méfaits et des trahisons du défaitisme, de l'occupation et ensuite de la collaboration. Mais on peut dire qu'au 1er septembre, quand la guerre a éclaté, Churchill avait déjà rompu avec Flandin. Et comme je l'ai souligné, il n'avait jamais eu de rapport amicaux avec Laval et Pétain. A l'inverse, à cette date, 1er septembre 1939, deux de ses meilleurs amis politiques en France étaient Léon Blum et Paul Reynaud. Donc, pas du tout des collaborationnistes. Donc, il est vrai, on peut dire, que Paul Reynaud, bien évidemment, n'a pas été à la hauteur de la situation en mai-juin 1940, mais ce n'était pas un traître. Et même chose pour des militaires comme Gamelin ou Georges, ils n'ont pas été à la hauteur de la situation, mais ils n'ont pas trahi. Donc, je terminerai, et là, c'est vraiment ma dernière phrase, en disant que les amitiés françaises de Churchill à la veille de la guerre montrent une fois de plus, s'il en était besoin, qu'il se trompait très rarement sur la fibre morale des hommes, y compris les Français, pas seulement les Britanniques. Merci. Merci.
Merci.